Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Et ben, dans un moment, hein, on va commencer Tempête sur les planches, sur la voix sans, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Voilà, vous pouvez aller à la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot, pour trouver le Monde Libertaire, notre hebdomadaire préféré, fait par les copains toutes les semaines, et bien sûr beaucoup de livres et autres choses. Vous pouvez aussi trouver nos pages internet, radio-libertaire.com. .org pour savoir qu'est-ce qui vous attend sur nos ondes et nous soutenir en allant par exemple sur la librairie du Monde Libertaire, comme je l'ai dit. Voilà, la prochaine émission, ce sera en direct et Tempête sur les planches, sur le spectacle vivant après cette musique, mais on va quand même parler de musique aussi. Voilà, c'est parti. Aux artisans.
Nombreuses à vos postes de TSS, j'entends, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
Bon allez, on va vous présenter du théâtre aujourd'hui et de la musique dans Tempête sur les planches avec Thomas Dambourg. On va commencer par le Chant du Père au théâtre de la Tempête. Ça tombe bien pour Tempête sur les planches. Au théâtre de la Tempête, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y soit avec Hattie Schoeser qui nous présente un très beau spectacle avec son père. Et après ça, on va aller au théâtre de la Bastille et on va rendre hommage à Pierre Molinier, cet anarchiste fétichiste, cet érotomane qui a vécu de 1900 à 1972 ou 76, je ne sais plus, et avec Bruno Gélin, le metteur en scène du spectacle qu'il reprend tous les 10 ans. Alors, Hattie Schoeser, bienvenue sur Radio Libertaire. C'est un spectacle, donc le Chant du Père, qui va démarrer après-demain au Théâtre de la Tempête.
Oui, bonjour Radio Libertaire, bonjour Thomas. Oui, c'est après-demain, mardi 14 février, jusqu'au 19 février, à la Tempête.
Voilà, c'est un spectacle que j'ai pu voir, que j'ai pu découvrir l'année dernière au Festival de Marseille.
Ah oui, aux rencontres à l'échelle de Marseille.
Le Festival de Marseille.
Ouais. On l'a créé l'année dernière en février au CDN de Rouen. Et depuis, on le joue, on l'a un peu joué. Et là, c'est la première fois qu'on le joue sur Paris.
Voilà, et aujourd'hui, mais bon, vous êtes en train de vous installer au théâtre. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, on est en montage.
J'ai bien compris, oui. Mais c'est comme ça, mais bon, on est là. Je suis très content qu'on puisse évoquer ce spectacle qui est, alors j'ai dit au départ, mais un petit hommage aujourd'hui aux artisans parce que, alors, Yavuz Özer, alors ton papa avec lequel tu es sur scène, il est conteur, il est musicien, joue du saz, il est chanteur, mais aussi, ce que j'ai pu lire, donc ferronnier, et tout à l'heure, ben, Pierre Molinier, lui, il était accessoirement peintre du bâtiment. Voilà. Donc voilà, on a un rapport concret à quelque chose de réel, à la matière aujourd'hui aussi, et dans cette tempête sur les planches. Alors, j'ai un peu peur qu'on va plus parler de ton papa que de toi-même, mais c'est comme ça. Et après, on va plus parler de Pierre Molinier que de Bruno Gélin, mais c'est comme ça avec les hommages, quand on est avec quelqu'un, une personnalité aussi forte. Donc, parle-nous un peu quand même, pour commencer, de toi-même. Hatice, tu es née en France?
Oui, je suis née en France, en Dordogne, plus exactement dans le Périgord. En Dordogne, mes parents sont arrivés dans les années 80 et j'ai grandi ici. Ensuite, je suis allée à Toulouse faire des études et puis à Paris pour commencer le théâtre, pour faire du théâtre.
Voilà, moi j'aime beaucoup le Périgord.
Ah oui, vous connaissez ?
Oui, je connais, oui, je connais ça. Alors, il est musicien, ferronnier, et il chante quoi? Qu'est-ce que c'est que ce répertoire qu'on voit? Ça vient de Turquie. Par ailleurs, bien sûr, il faut dire une chose. Là, j'espère que, alors, que tout le monde se porte bien, tous vos proches, toute la famille, les amis, et tout ça, et même vos ennemis, parce qu'il faut aussi, pour bien vivre, il faut aussi avoir deux, trois ennemis. Mais j'espère que tout le monde se porte bien après cet horrible tremblement de terre, là.
Mes proches, ça va, mais les proches de mes proches, ils sont... Ça va à moi et c'est très dur pour tout le monde et on n'a pas les mots, en fait. C'est tellement dur, ouais. C'est tellement catastrophique. Et
ouais.
Ça dépasse le tremblement de terre qu'il y a eu en 99 en termes de morts. C'est
pas non plus évident de dédouaner complètement un spectacle comme celui-là.
On appelle vraiment au don à Croix-Rouge, la Croix-Rouge française. Ils ont ouvert un portail pour faire des dons pour le séisme. On peut passer par là. Ou ARPAP, qui aide aussi les sinistrés du séisme en Turquie.
Alors, pour décider, là, dans le Périgord, je ne sais pas où, de devenir comédienne, de faire du théâtre, c'est venu comment ?
Alors, comme... En fait, mon père, il fait partie d'une tradition de chanteurs, raconteurs d'histoires, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas... C'est un métier qu'on fait à côté, c'est un métier... on est avant tout... on a un métier principal, et... ensuite, on joue dans des cadres, dans les foyers, dans les mariages, dans des cercles comme ça, intimes. Et moi, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi en voyant mon père faire les cérémonies, faire les soirées entourées de gens qui pleurent, qui rient, qui boivent de l'alcool. Et j'avais envie, pour mon premier spectacle, de rendre hommage à cette manière de faire de l'art, oui, de faire du beau. Et voilà.
Et c'est dans quel coin du Périgord ?
C'est Terrasson. C'est une petite ville de 5000 habitants entre Brive-la-Gaillarde et Périgueux.
D'accord. Ouais. Alors, maintenant, c'est un spectacle dont j'ai pu découvrir à Marseille. Vous êtes tous les deux en scène et c'est très convivial. L'ambiance et ce rapport au père, c'est aussi le rapport à une culture d'origine.
Oui.
C'est quelquefois qu'on est en France, on fait du théâtre en France, mais on a plutôt souvent peut-être aussi envie de dire ce sont des histoires d'avant, c'est un autre monde. Moi, je vis ici maintenant en France, je fais ma vie, je fais mon chemin. Et tes histoires d'antan, ta nostalgie et tout ça, quoi, est-ce que ça me concerne, voilà.
Non, mais pour moi, c'est hyper important de mélanger tradition et modernité. Je peux pas faire autrement et je me rends compte que c'est vraiment, ça fait partie de moi, en fait, cette histoire. Même si je suis née ici, j'ai grandi ici, mais les Turcs, on est très communautaire, faut le dire. On est très, on se soutient beaucoup. Il y a vraiment, les coutumes sont, on perpétue les coutumes. Il y a quelque chose de qu'on veut pas perdre, quoi. Quand on est de la diaspora, et il y a une peur de perdre la langue, perdre l'héritage. Et quand on grandit dans ça, j'ai l'impression que moi, je peux pas faire autrement. Vous parliez de convivialité. Moi, je peux pas faire de spectacle sans avoir une convivialité. C'est hyper important. Je sais pas, c'est le sens de l'accueil. Le fait de se dire ces gens-là se sont déplacés pour te voir dans un théâtre, pour venir se rassembler. C'est énorme, en fait. On est obligé de leur donner avec le sourire, avec le partage. Enfin, c'est ensemble. Et aussi, je suis obligée d'avoir une convivialité parce que mon père, il joue dans des cercles où il connaît les gens. Tout le monde se connaît là où il joue. C'est dans des cadres de communautaires. Et donc, moi, en le ramenant dans le théâtre public, je dois un peu prendre ces codes-là et faire un mélange pour que lui se sente à l'aise et que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on passe une bonne soirée tous ensemble.
Oui, bien sûr, ça se sent et ça m'a aussi beaucoup touché, beaucoup plu. Et puis, bien sûr, la qualité musicale, la qualité humaine, bien sûr, la qualité du spectacle. Et aussi, bien sûr, la sincérité, quelque chose d'authentique. Qu'on peut évidemment sentir, et c'est une histoire qui nous interroge, je veux dire, par rapport à nos propres racines, un peu d'où est-ce qu'on vient, etc. Mais qu'est-ce que vous faites des choses ensemble, autrement, des voyages aussi, dans le pays?
Oui, je vais souvent en Turquie, chaque année on y allait quand on était petit. Mais c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire un spectacle avec mon père, parce que de par mon parcours, j'ai quitté ce microcosme de la Bouribas, de Terrasson, du Périgord, de ce quartier turc, en allant sur Paris, en faisant du théâtre avec dans le théâtre public, en disant des mots. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression, je vais vous dire des mots étrangers, alors que c'est ma langue, le français aussi, mais c'est comme si j'avais envie de vraiment, là je vous dis des choses très comme si j'avais envie de réparer quelque chose, ou réparer un lien qui va nécessairement être coupé, quoi, parce que dans la génération, moi je parle déjà très mal le turc, la génération qui viendra parlera encore moins, et on aura oublié dans 30 ans, 40 ans, dans 20 ans.
Mais j'ai relevé un texte là, parce que beaucoup de chants sont évidemment en turc. Dans le spectacle.
Oui.
Ouais, alors il y a un texte là qui s'appelle La complainte de la mariée.
Ah oui.
Ouais, et le texte c'est ne construisez pas des maisons sur les sommets, ne donnez pas vos filles au village haut perché. Regardez-moi, je ne peux le crier qu'aux oiseaux, ma mère me manque. Et ma mère et mon père, tout mon village me manque. Si mon père avait un cheval, il viendrait me chercher. Si mes frères connaissaient le chemin, ils viendraient me voir. Voilà 6 années que je n'ai pas vu les miens. Les épines de mon village me semblent maintenant des roses. Voilà. Mmh. Ah, c'est toute la poésie orientale.
Ça, c'est le chant qu'on chante le jour du mariage, que la mariée chante le jour de son mariage. Et c'est vraiment le dernier chant qu'elle chante dans sa famille pour dire adieu, et tout le monde pleure. C'est vraiment... Et si tu pleures pas, c'est un peu suspect. Ça veut dire que t'es un peu contente de partir. Donc non, il faut vraiment pleurer pour bien montrer que t'es triste de quitter ta famille. Et ça, c'est le dernier chant du spectacle que je chante en turc et que je ne traduis pas. Donc c'est aussi ça dans le spectacle, c'est qu'il y a des choses que les Français qui ne parlent pas turc ne comprennent pas, et d'autres des Turcs, là ça je chante ça quand il y a des Turcs dans la salle, ils le chantent avec moi, c'est obligé quoi, ils comprennent de suite de quoi je veux parler. Et aussi, enfin voilà, c'est rendre hommage pour dire adieu en fait.
Voilà. Après il fallait construire un spectacle avec tout ça,
ouais,
avec lui. Comment est-ce que ça se passe? Ça peut être un peu difficile aussi, parce que le père, c'est quand même le père. Et est-ce qu'il se soumet un peu aux volontés, aux idées de la metteur en scène? Ou est-ce que vous avez discuté beaucoup, trouvé des choses ensemble?
Bah, c'est tout un monde, les répétitions. Parce que lui, déjà, le principe de la répétition, de répéter un spectacle qu'on va faire plusieurs fois, ça c'est pas du tout dans ses habitudes, c'est ce qu'il fait lui, c'est un art du moment, de l'instant, il chante pour les gens, il va s'installer, il sait pas ce qu'il va chanter, il sent les choses, il dit bon ben on va chanter ça, on lui dit chante ça et tout, et lui il me dit mais comment tu sais qu'en février là, le 14 février quand on va commencer à jouer, est-ce qu'ils auront vraiment envie de... Comment tu peux prétendre savoir ce que les gens auront besoin d'entendre. Enfin, c'est, pour lui, c'est complètement absurde, ça, de répéter, de refaire geste par geste une répétition d'une pièce de théâtre. Et donc, nous, on a dû trouver des compromis, quoi, trouver dans la structure même du spectacle des choses qui le laissent libre dans sa... voilà, libre sur scène. Moi, le cadrer tout en le laissant libre, c'est très dur. C'est un mélange entre des choses improvisées et des choses très cadrées. On a des petits codes entre nous.
Alors c'est un peu... oui, comme dans une maison à la fois, et donc comme dans un paysage après.
Ouais. Ah oui, d'abord on est...
Il y avait les mises en scène. Hein,
ouais, j'avais envie de lui rendre les steppes d'Anatolie. Donc on commence dans une maison, enfin dans une pièce, une chambre, enfin un salon où j'accueille les gens, où je sers le thé, et ensuite on glisse vers les plaines de l'Anatolie au fur et à mesure du spectacle. Ouais.
Oui. Il a son saz, on peut dire un mot à propos de l'instrument?
Alors le saz, c'est un instrument presque sacré en Turquie. Il ne doit jamais toucher le sol, par exemple. Ah. Il doit toujours être suspendu dans la maison. Ça sert aussi pour une branche de l'islam. Les Alevis, c'est une branche de l'islam, et ils en ont besoin pour faire leur culte dans les prières. Donc c'est... un instrument, il ne peut pas chanter sans. Des fois, j'ai essayé de lui dire « Vas-y, tu peux chanter a cappella ». Non, c'est le prolongement de lui-même, c'est son instrument. Il ne peut pas chanter sans, et ça fait partie de la tradition.
C'est un lien totalement organique.
Organique, quoi. Et il a appris tout seul. En fait, il n'y a personne qui lui a dit « Tu mets ton doigt là, la note c'est là ». Donc, quand tu as appris tout seul, transmettre, c'est aussi dur, parce que voilà, il n'a pas... Il ne m'a pas dit, tu fais ça, je l'ai vu faire. Et...
Ouais. Et puis, si je me souviens bien, c'est un peu tout ce débat sur la relation entre le père et la fille, et la relation avec cette culture, les racines et tout ça qu'on traverse pendant le spectacle. Alors là, il y a l'écriture.
J'avais envie de... voir autrement ces pères-là qui sont venus travailler en France pour construire la France. Vous voyez, des fois, on voit beaucoup d'hommes dans des cafés, dans les bars PMU, des hommes, des étrangers qui sont là, dans la fumée. Et on n'a pas accès. En fait, il y a quelque chose de très, moi, je trouve mystérieux. Et j'ai vu beaucoup mon père dans ces bars où il n'y a que des Turcs, où il n'y a que des hommes. Et j'avais vraiment envie de rentrer dans ces cafés après minuit.
Oui, et puis souvent, par ailleurs, dans cette génération, les gens disent souvent et mais faire un métier sérieux, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, l'artiste? Tu gagnerais rien. Fais quelque chose où tu gagnes ta vie, quoi. Bon, ouais. C'était comment avec lui? Parce qu'en même temps, il est artiste aussi, quoi.
Oui, il est artiste, mais ça reste quand même un métier pas sérieux, parce que je sais pas, c'est toujours quand est-ce que tu vas te poser, en fait, comme on est toujours à droite, à gauche, et aussi c'est très impressionnant de voir tout ce qu'il y a autour d'un spectacle, toute la technique, tout ce que ça engendre en termes de matériel et de besoins humains, et ça, c'est très différent de là-bas.
Oui, en même temps, c'est du travail. Il y a du travail derrière ça. Les gens respectent quand même.
Ouais. Ouais. Et donc, à partir du moment où je l'ai invité, moi, à faire ce spectacle avec moi, il y a eu un peu plus de comment dire, de respect pour ce travail-là et de considération, de dire, ah ouais, c'est en fait vous répétez longtemps, on parle beaucoup dans les répètes, enfin, il y a un long travail, quoi.
Mais c'est quand même intéressant, c'est quand même aussi un bonheur, quelque chose de positif, d'avoir un père avec qui on peut dialoguer, qui fait au moins de la scène, d'une manière, d'une autre, parce que je me souviens, pour ne pas le nommer, Abou Lagra, un chorégraphe qui est né à Annonay de parents algériens, et qui a dit, mais le plus grand regret de sa vie, c'est qu'il ne peut pas parler de ce qu'il fait avec ses parents, parce qu'ils ne comprennent rien. Au moins, lui, il comprend un peu, quoi.
Le fait qu'il soit artiste aussi, ça facilite les choses. Mais par exemple, il y a des choses dans le spectacle qui comprend moins dans la langue, dans les parties textuelles que j'explique. Mais moi, mon turc, il n'est pas très bien aussi. Il y a des choses qu'on ne se dit pas, mais qui se transmettent autrement, quoi, pendant le spectacle. J'ai envie de dire la soirée, parce que vraiment, on passe vraiment une soirée avec les gens.
Et la mère, là-dedans, par exemple, elle chante pas?
Non, ma maman, elle est là, elle sera là tous les soirs à la tempête, mais c'était vraiment axé sur le père, là.
Ah voilà, le chant du père, ça va être donc au théâtre de la tempête, du 14 au 19 février. Donc, oui, par bonheur, je suis tombé sur l'information, par bonheur, je l'avais déjà vu. Voilà, de quoi est-il question, donc, dans les chants, de qui sont les textes qui sont parfois traduits et parfois pas?
Alors, les textes, c'est une longue tradition de amoureux, les ashik, ce sont ceux qui vont dans les villages avec leurs instruments, leurs saz, et qui chantent des chansons, et on se transmet les chants à l'oral. Et ça fait très longtemps, et des fois même, il n'y a même plus le nom de l'auteur. Mon père dit qu'il connaît 300 chansons, et des fois, l'auteur de la chanson se cite lui-même dans les paragraphes, à la troisième personne, et du coup, on a encore l'auteur de la chanson, mais la plupart, il y a une grande partie où on n'a plus les auteurs. En tout cas, il y a beaucoup. Je vais vous dire des noms, mais ils sont pas. Enfin, c'est Neshet Ertash, beaucoup grand chanteur traditionnel. Ashk Veysel et beaucoup de poèmes inspirés de la philosophie de soufi aussi. Enfin, la branche soufi de l'islam, islam un peu comment dire mystique, spirituel. Et donc c'est des chants qui parlent beaucoup d'exil, d'amour contrarié, de mort, et aussi beaucoup ça critique le pouvoir, les grands, et ça met en valeur les petites gens. Ouais, beaucoup. Et des fois c'est très drôle aussi. Vraiment, à un moment donné, quand on dit les gros seins de Eminem, ça parle de c'est des choses un peu drôles aussi.
Et donc, alors, le spectacle se déroule, comment, disons un petit mot, j'ai revu des photos, j'avais dans ma mémoire, j'avais l'image d'une énorme table, mais finalement, elle n'est pas si grande que ça, mais il y a une table.
La table n'est pas
du thé, du thé. Chai.
C'est mon plateau qui est très grand, mon plateau de thé oui, qui est très grand. J'ai plein de thé que je remplis pendant le spectacle et que je donne au public. Il y a comme ça, en fait, on a choisi quelques objets symboliquement significatifs. Enfin, quelque chose, le thé qu'on boit, le grand plateau, cette table en bois. Il y a peu d'éléments sur scène, mais ils sont tous très significatifs et très bruts, en fait. Il y a l'eau, la fumée aussi au début, quand je lance le sable et qu'il fait de la fumée. Je fais un cercle comme ça au début pour un peu un cercle qui délimite l'espace de jeu. Ça, on commence plateau nu et au fur et à mesure j'amène comme ça des objets de ces cérémonies là, des cérémonies de mon père.
Donc c'est bon, il y a beaucoup d'idées de partage là-dedans. Ceci dit, ça reste essentiellement, ça reste quand même un spectacle frontal. Ouais.
Oui, ça reste frontal. On essaye au maximum, des fois, on l'a joué dans des configurations en trifrontal ou en arrondi. Mais ça reste frontal parce que ça permet, moi, de garder une certaine distance aussi, de pas... Parce qu'il y a un squelette très précis, une structure, et à l'intérieur de ça, ça bouge un peu, mais on peut le jouer en fait partout. Hein.
Mais bon, on va expliquer où ça se passe. Alors, le théâtre de la Tempête se trouve à la Cartoucherie. On appelle ça la Cartoucherie de Vincennes. Alors, quand on regarde la carte, eh ben, c'est comme une sorte d'annexe du 12e arrondissement de Paris, voilà. Ouais. Et il y a la navette. Alors, on va avec le métro, on prend le métro, la une, jusqu'au terminus Château de Vincennes. Et on prend la navette gratuite. Elle vous amène à la Cartoucherie.
C'est ça. Tout est fait pour que les spectateurs puissent rentrer facilement après.
Et c'est à quelle heure ?
Je crois que c'est à 20h ou à 20h30. C'est à 20h30. 20h30, du mardi au samedi 20h30, le dimanche à 15h30.
Ben voilà, vous pouvez tout trouver par ailleurs sur le site, évidemment, Théâtre de la Tempête à Paris. C'est très simple. Et vous allez maintenant y aller, n'est-ce pas, et commencer là, je ne sais pas, la mise en place du spectacle, sans doute.
Oui, on va encore répéter demain et après-demain, et voilà, on est prêt mardi.
Merci beaucoup d'être venu, malgré planning chargé.
Là, merci, c'était un plaisir.
Bravo encore, c'est un très très beau spectacle, très merci, touchant, Thomas. Ça fait chaud au cœur, belle musique et belles histoires, et puis surtout, mais ça nous touche par rapport à ce que nous sommes, d'où nous venons en fait.
Ça nous, d'où on vient et où on va.
Ça nous parle de ça, voilà, merci beaucoup.
Merci.
Les belles ombres, la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le même moqueur.
On continue Tempête sur les planches avec Thomas d'Hambourg et maintenant Bruno Gélin. Bonjour Bruno, bienvenue à Radio Libertaire et dans le studio Louise Michel pour le spectacle au Théâtre de la Bastille. C'est mes jambes, si vous saviez quelle fumée. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait, d'où ça vient?
Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, « Mes jambes, si vous saviez qu'elles fumaient », c'est un vers tiré d'un poème de Michaud. Et c'est un titre effectivement énigmatique. Et il faut... Alors, je ne sais pas si il y a directement des réponses dans le spectacle, mais bon, disons que... voilà, ça reste mystérieux.
Alors, c'est un spectacle qui a été créé il y a 20 ans. Au Théâtre de la Bastille.
C'est ça, absolument. On l'a créé il y a 20 ans au Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d'automne. Et depuis le début, avec Pierre Maillet, donc il y a trois interprètes, Pierre Maillet, Lise Vigier, Jean-François Auguste. Et depuis le début, on s'est dit qu'on allait reconvoquer le spectacle tous les 10 ans, jusqu'à ce que Pierre ait l'âge de du suicide de Molinier, c'est-à-dire 76 ans. Donc il nous reste encore un petit peu de marge.
Ouais. Alors vous reconvoquez le spectacle, ça veut dire vous faites tourner quelques tables, etc. Et hop, le spectacle revient, il sort d'une boîte, voilà.
Oui, ouais, tout à
il
fait.
Il est de nouveau avec vous.
Tout à fait, on fait tourner les tables, les corsets,
les
bas, les oui. Les talons, voilà, on fait tourner tout ce que voilà, tout ce qu'on a sous la main.
Alors ce Pierre Molinier, alors, moi j'ai pas vu le spectacle il y a 20 ans, là en 2004, je l'ai pas vu. Mais quand même, il y avait déjà un autre spectacle sur Molinier au Théâtre de la Bastille, c'est un peu le fief parisien de Pierre Molinier, ce théâtre, et c'est... Très très bien, c'est quelqu'un qui a son importance. Il était, bon, comment on peut le décrire? Moi j'ai trouvé les mots fétichiste, érotomane, anarchiste, ça nous plaît bien, irréductible, bon il est inclassable, irrécupérable, j'ai trouvé aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement étonnant quand même.
Tout à fait, iconoclaste, décalé, subversif... Bon, on peut... mais c'est quelqu'un... voilà, puisqu'il a les passions des jambes, des talons, des bas gainés. Alors d'abord, la fascination des jambes des femmes, et puis par extension, quand il a commencé à essayer les bas et les chaussures à talons de sa sœur, il a trouvé que c'était aussi formidable, sensationnel sur lui. C'est quelqu'un qui ne fait pas de prosélytisme, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est un être libre. Il y a un texte de Pierre Bourjade qui disait que la première fois qu'il l'a rencontré, il était face à un homme totalement libre, comme une marionnette qui avait coupé ses fils. Donc c'est quelqu'un qui plutôt que de nous amener dans ses propres passions, il est assez doux. Il offre surtout la possibilité de se questionner sur ses propres limites. Et évidemment, il nous encourage à les dépasser.
Oui, c'est quelqu'un... bon, c'est rare. Quelqu'un très rare de rencontrer des gens comme ça. On ne peut plus le rencontrer. Il aurait 120 ans aujourd'hui, mais c'est aussi c'est étonnant, parce que quand on voit quelque chose sur lui, cet hommage en particulier, mais il n'a pas d'âge, il pourrait appartenir à toutes les époques, et à la nôtre, c'est une sorte d'électron libre qui n'est attaché justement à rien, qui a une telle liberté d'esprit, liberté de pensée. En même temps, bon, il était donc peintre du bâtiment et ami d'André Breton, bon, avec les surréalistes, il fricotait avec ces gens-là aussi, quoi.
Oui, là, en fait, André Breton a découvert son travail Et ils sont devenus amis, et André Breton a organisé la première première exposition de ses œuvres photographiques à l'Étoile Scellée. Et puis, évidemment, comme Molinier, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun filtre. À un moment donné, il raconte que il avait une fille illégitime, Monique, et qu'il avait fini par lui acheter à Bordeaux un bordel qu'il appelait chez Monique au Texas Bar. Et quand il a annoncé ça à Breton, apparemment les relations se sont arrêtées nettes.
Oui, il n'avait aucune envie d'être politiquement correct, surtout qu'à l'époque, l'idée même n'existait pas encore. Il dit, là, vous travaillez sur une longue interview, une interview fleuve là, qu'il a donnée à la fin de sa vie. Et il dit, par exemple, qu'il aime les armes à feu.
Oui, tout
c'est
à fait.
Étonnant, quoi.
Oui, alors c'est un être assez paradoxal, donc il faut s'attendre à tout avec Molinier. Et c'est vrai que alors moi j'ai découvert son travail photographique quand j'étais étudiant en histoire de l'art, et j'avoue que ces photos m'ont particulièrement perturbé, c'est-à-dire que j'avais une sensation assez ambivalente face à son travail, qui était à la fois une forme d'excitation et il y avait quelque chose aussi de grave et d'assez terrifiant dans ces photographies, avec des êtres aux jambes multiples, il travaillait beaucoup sur l'idée de l'androgynie initiale avant même qu'il y ait autant de théories sur le genre à venir. Il cherchait une façon de réussir à sortir des assignation et des limites de son propre corps. Et puis un jour, en me baladant, j'ai découvert un livre dans une librairie, dans une vitrine, avec une photographie de Molinier. Je crois que c'était la Grande Mêlée, qui est aussi le nom de la compagnie de théâtre. Cette biographie de Pierre Petit s'appelait Une vie d'enfer. Donc j'ai trouvé le titre tout à fait intéressant. Et là, j'ai découvert un homme qui était quasiment aux antipodes de ce que je pouvais penser de l'image que je m'étais faite de ce photographe. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui parle avec un accent, puisque Pierre Petit le cite, et puis il parle beaucoup de son accent bordelais. Il y a le rire qui est très très important, qui permet aussi de faire passer beaucoup de choses. Et puis dans ce livre, j'ai découvert qu'il y avait des entretiens qui avaient été réalisés par Pierre Chavot, qui était étudiant aux Beaux-Arts à l'époque, qui avait une vingtaine d'années, et qui a passé du temps avec Molinier, qui l'a vraiment rencontré. Et d'ailleurs, Pierre Chavot est venu vendredi dernier, qui est un être aussi de passion. Et là, avec Pierre Maillet, l'acteur, il y a beaucoup de Pierre dans cette histoire. Mmh. Voilà, Pierre Petit, mmh. Pierre Chavot, Pierre Maillet, mmh. Pierre Molinier, évidemment. Mmh. Avec Pierre, Pierre Maillet, on a décidé de travailler à la fois sur les enregistrements, c'est-à-dire sur un principe d'immersion. On écoutait en boucle, et comme on voulait pas avoir une approche universitaire, on a décidé de refaire dans un premier temps les photos à l'identique de Pierre Molinier, c'est-à-dire qu'on voulait trouver le chemin de la sensation. Donc qu'est-ce que ça fait de mettre des bas, de se raser les jambes, de porter des talons, et puis surtout de recomposer les photographies à l'identique de Pierre Molinier, où là on voyait l'extrême précision de ses compositions. Et la première fois que j'ai rencontré Pierre Chavot, je lui avais pas parlé du spectacle. Il dédicaçait son livre avec le CD à l'intérieur des entretiens au Divan du Monde. Et comme Pierre Maillet a les mêmes initiales que Pierre Molinier, je suis arrivé et je lui ai demandé de dédicacer le livre pour Pierre M. Et il a écrit à Pierre M. la réincarnation officielle de Pierre Molinier. Donc j'avais le passeport pour l'aventure.
Mais alors ce livre, une vie d'enfer, pourquoi ce titre, et quel genre d'enfer, et est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il s'est suicidé avec son pistolet, ou je ne sais pas quoi, amateur d'armes à feu, il s'est quand même tiré une balle, mais pourquoi, alors que il était une incarnation de la liberté, il rigolait beaucoup, est-ce qu'on sait pourquoi?
Bon, alors ça c'est une interprétation de Pierre Petit, le biographe. Il y a toutes sortes d'enfers. Il y a également des enfers qui permettent de révéler quelque chose de soi. Si je lisais dans le hall là, c'est le feu qui me brûle et aussi celui qui m'éclaire. Voilà. Bon, donc effectivement, parfois il a dû aller vraiment sur des frontières très extrêmes et c'est comme un éclaireur pour le coup, puisqu'il a donné de son corps, de sa vie, pour pouvoir aussi nous enseigner des choses de retour de ces enfers.
Ouais. Mais c'est pas parce qu'on lui aurait on l'aurait forcé à porter des chaussettes. Non, il se serait pas laissé faire, mais il détestait les chaussettes, ça c'est sûr.
Oui. Ça c'est peut-être le véritable enfer de Bouligny, les chaussettes et les poils peut-être.
Maintenant, j'ai l'impression, mon sentiment quand j'ai vu le spectacle, c'était qu'on était dans une sorte de cabaret. En fait, vous dites que c'est vous placez un peu dans son atelier, c'est un dialogue avec lui. C'est Pierre Maillet qui joue Molinier. Et on est un peu dans son univers, à la fois façon mentale, mais de façon matérielle aussi, un petit peu. Mais pour moi, c'était aussi comme un cabaret, quoi.
Alors, c'est clair que ce qui s'est passé avec Pierre Maillet, ça a été quelque chose d'assez spectaculaire, parce que, tu as dit, il joue, alors qu'il y a quand même quelque chose qui était troublant avec ses mêmes initiales, la même pointure, et puis une ressemblance aussi physique. Et donc il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une petite forme de réincarnation, et c'est presque parfois effrayant. ça l'était pendant le travail, et ça reste très mystérieux ce qui se passe en fait entre Pierre Maillet et Pierre Molinier. Sur l'aspect cabaret, je veux bien assumer cette partie, parce que je suis fasciné par le cabaret, mais c'est vrai que à l'origine l'idée c'était de reconstituer un atelier de Molinier dans son fameux appartement rue des Fossés. Voilà, que là il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, des modèles, mais il y avait aussi toute la bourgeoisie bordelaise qui, parce qu'il avait inventé un procédé particulier pour fabriquer des godemichés avec des bas compressés, et il y avait toute la bourgeoisie bordelaise qui venait frapper à sa porte pour se fournir en godemichés, et qui venait également faire des photos un peu de couple coquine.
Voilà. C'est pas un solo, donc c'est un trio sur le plateau.
Oui.
Il se passe des choses. Les deux hommes là dansent un tango, par exemple. Donc, ça, je sais pas si ça pouvait se passer dans l'atelier de Pierre Molinier, probablement, qui danserait un tango avec quelqu'un. Et donc, raconte un peu comment. Alors, qui sont les deux autres? Parce que là, on revient aussi à une compagnie qui était célèbre aussi dans le théâtre français, un collectif, les Lucioles.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, je vais répondre à votre première interrogation sur le tango. Je pense que ce que les gens aimaient chez Pierre Molinier, dans son atelier, c'est que tout pouvait se passer, en fait. Donc, le tango ou autre chose, mais tout était possible. Et en fait, c'est aussi ce que perd l'artiste, le bonhomme, c'est-à-dire de nous mettre effectivement face à nos propres désirs, nos propres passions, puisque lui il dit ce que j'appelle des vices, moi j'appelle ça mes passions. Voilà. Donc assez vite, et bon, il y a 20 ans, c'est vrai qu'on avait travaillé un tout petit peu différemment sur le parcours d'Élise Vigier et de Jean-François Auguste. Disons que c'était l'incarnation pour Élise de tous les modèles de Pierre Molinier, Emmanuel, Annelle. Et sur le parcours de Jean-François Auguste, on avait plus travaillé avec sur la figure de d'Agulo, qui était un ami et modèle de Pierre Molinier. Mais en fait, il y a 20 ans, on va dire que c'était beaucoup plus des images, c'est-à-dire des créatures de la propre fantasmagorie de Molinier. Ce qui change aujourd'hui, puisqu'on s'appuie maintenant sur 20 ans de complicité et d'amitié, c'est que plus que des apparitions, il participe totalement à la création photographique de ses œuvres, à un endroit de complicité et d'échange. Et par rapport aux Lucioles, donc, le théâtre des Lucioles à Rennes, qui s'est formé après, c'était la première promotion, alors le mot n'est pas très beau, mais de l'école du TNB. Et donc, ils ont créé un collectif, les Lucioles, avec... bon, il y a beaucoup de monde, voilà, mais il y a évidemment Pierre Maillet, Élise Vigier, bon, il y a plein de d'acteurs, ils étaient 12, Martial Di Fanzobo, et moi je les ai rencontrés parce qu'ils travaillaient sur un spectacle autour de Copy, un portrait. Et j'aimais beaucoup Copy, et on s'est rencontrés à cette occasion, et puis voilà, et puis on a continué à travailler ensemble sous des formes très différentes.
Ah oui, justement, c'est ce que je me disais aussi en voyant le spectacle sur Pierre Molinier, c'est que dans le paysage théâtral, alors s'il y a quelqu'un qui pourrait on pourrait tisser des fils entre lui et quelqu'un dans le théâtre, ça serait Copy.
Oui, mais après, voilà, ils évoluent quand même dans des constellations assez différentes, mais effectivement, on va dire que tous les deux, c'est à leur façon des pourfendeurs de la morale, de la norme. Et que Copy était fasciné par le cabaret, se mettait lui-même en scène d'ailleurs, parfois nu comme un ver avec le sexe peint en rouge. Donc oui, en tout cas, un endroit de totale liberté et d'assumer, et d'assumer totalement leur être intérieur. Oui, je pense que... Ils sont cousins, mais voilà, oui, sous des formes différentes. Oui,
et puis, mais il y a une différence avec ce qu'on voit habituellement dans le théâtre, ici, dans ce spectacle. Mais vous partez du corps, d'une part, et vous travaillez aussi beaucoup sur l'image.
Tout à fait. J'ai une formation de photographe, de vidéaste, donc j'ai beaucoup travaillé sur le principe d'image, sur la représentation du corps, de la sexualité. Et puis j'ai croisé avec des expériences de théâtre. Mais alors c'est pas l'image est pas forcément un déclencheur, mais elle participe effectivement à l'élaboration et à l'écriture du spectacle.
Oui. Et puis vous avez peut-être aujourd'hui aussi un peu plus de liberté vous-même pour vous amuser autour de Pierre Molinier.
Vous voulez dire à quel niveau ?
En 20 ans, votre rapport à cette matière est peut-être aussi un peu différente aujourd'hui.
Elle est différente, oui, elle est différente. Parce qu'en fait, alors j'utilise pas le mot reprise, hein, on se donne des rendez-vous, et puis c'est comme c'est un être qui fait partie totalement de nos vies, on a besoin de le reconvoquer de temps en temps. Et donc j'ai demandé aux acteurs de ne pas revoir, parce qu'il y avait beaucoup de évidemment de d'images d'archives, puisqu'on avait commencé par travailler comme ça. Et puis il y avait également des captations du spectacle, mais je leur ai demandé de ne pas revoir la captation. Et moi-même je ne l'ai pas revue. Je voulais qu'on reparcourt le terrain par le spectacle par la mémoire. Pour voir et pour de manière organique comprendre ce qui avait changé nous dans notre perception il y a 20 ans, donc les corps ont changé, et je voulais laisser la place à une sorte de dramaturgie du temps qui si vous voulez la construction du spectacle, on va dire, reste la même. Il y a eu des ajouts un peu de texte, etc. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est la manière de porter avec ces 20 ans de transformation, les thématiques de Molinier, parce que Molinier parle du désir évidemment, mais il parle constamment de la mort, hein. Eros et Thanatos qui marchent la main dans la main. Et c'est vrai que à l'époque on était beaucoup sur le côté provocateur, le rapport au désir immédiat, à l'image. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, surtout qui est une thématique très importante chez Molinier, son refus de vieillir, son rapport très étrange, ambivalent avec la mort. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on a finalement compris avec ces années, compris davantage.
Mais ça éclaire beaucoup de choses quand même aussi sur nous, sur notre époque aujourd'hui, parce que il y a quand même aujourd'hui tellement de spectacles, tellement de discours aussi apparemment libérateurs sur justement tout ce qui est entre le masculin et le féminin, cette traversée des frontières, tous les spectacles qu'on peut voir, tous les artistes et ailleurs dans la société aussi, tout ce qui est non binaire, ce refus de se dire féminin ou masculin, c'est de se définir par hors de tout ça. Et j'ai rencontré aussi il y a pas longtemps là quelqu'un qui organise tout un festival autour de la thématique, et un artiste aussi non binaire, photographe, etc., et qui nous dit oui, à l'époque avant on avait seulement le mot androgyne, tout ça était déjà présent, mais il n'y avait pas les mots pour exprimer ce désir d'être quelque chose qui ne se reconnaît pas dans les stéréotypes du féminin, du masculin. Bon, lui, il a une toute autre approche, et finalement, il est tellement libre, il est tellement insaisissable, il va où il veut, qu'on se rend compte que finalement, tous ces discours autour du non-binaire sont aussi quelque part normatifs, alors que lui, il est totalement, il fait éclater toutes les normes.
Il fait éclater toutes les normes, mais ce qui le guide, mais je pense que c'est pour ça qu'il rejoint malgré tout à des moments donnés des préoccupations sur la question du genre, c'est que pour lui c'est insupportable de ne pas avoir la possibilité de s'inventer ou de se réinventer en quelque chose d'autre, au-delà de toutes les assignations. Donc, oui, je pense que, c'est Pierre Molinier, c'est pas un intellectuel, donc il ne parle que du faire, il tire pas de théorie de ses expériences, mais je pense que d'une certaine façon, même si il y avait déjà des artistes qui se questionnaient à cet endroit-là, évidemment depuis longtemps, mais finalement c'est quand même un précurseur.
Après, je me suis demandé, mais est-ce qu'on ferait aujourd'hui encore un spectacle comme celui-là ? C'est peut-être une grande chance que vous ayez pu le faire ensemble il y a 20 ans, pour le reprendre aujourd'hui, pour le revoir. Mais aujourd'hui, on est à une époque où même les artistes ne s'expriment plus avec la même liberté, avec la même impertinence. Les artistes sont aujourd'hui quand même moins irrévérencieux qu'on pouvait l'être il y a 25 ans, il y a 20 ans encore, et surtout que l'était ce Pierre Molinier, quoi.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que effectivement, il y a des pressions un peu. Il y a tout. Voilà, tout. Enfin, c'est une époque assez fascinante parce que c'est vrai qu'il y a des socles voilà sur lesquels la société s'est bâtie, en partie le patriarcat qui est en train d'être vraiment mis à mal. Et parfois, ça passe par des choses assez complexes. Forcément, il va y avoir des dégâts collatéraux, mais je crois qu'il y a pas tellement d'autres solutions. Et si vous voulez, c'est à la fois le risque, c'est effectivement qu'il y ait une forme de retour à l'autocensure, à une certaine norme ou un enfermement dans une identité particulière. Mais en même temps, moi je rencontre plein de gens, plein d'artistes qui s'emparent aussi et qui de toutes ces questions. Et je trouve qu'on vit un moment charnière qui est assez fascinant.
Oui, mais la question après, c'est est-ce que ces artistes peuvent montrer leur travail ? Parce que il y a quand même beaucoup d'exemples aujourd'hui de compagnies aussi. Ah, moi, j'ai vu ça beaucoup encore il y a quelques années. Déjà, ça a commencé dans les arts de la rue, par exemple. Il y a beaucoup de compagnies qui disaient oui, les programmateurs trouvent que nos spectacles sont très bien, sont très intéressants, mais ils nous programment pas. Ils disent c'est pas pour mon public. Ils ont peur de la réaction du public. Et aujourd'hui, par exemple, il y a autre chose aussi là. Il y a une séquence de musique orientale et de danse orientale. Il y a des choses qu'on pourra oser aujourd'hui moins. Et même, il y a cette autocensure, justement, qu'on n'imaginerait peut-être même plus aujourd'hui. Et surtout, après, faut trouver des programmateurs, faut trouver quelqu'un dans un théâtre, un festival, etc., qui veut montrer ça aux spectateurs. Et là, beaucoup ont aujourd'hui, de plus en plus, ont peur de se faire allumer pour des choses qui sont... il faut être de plus en plus consensuel, quelque part.
Oui, c'est possible, mais bon, Fassbinder disait, il a fait un film qui, bon, la traduction, c'est Tous les autres s'appellent Ali, mais le titre original en allemand, c'est La peur dévore l'âme, et c'est un titre magnifique, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, c'est que on arrive à un point où les gens ont peur d'avoir peur. Voilà. Donc effectivement, on va dire que un peu d'audace serait quand même tout à fait bienvenu.
Et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait le théâtre de Bastille qui ose montrer ces choses-là. Alors oui, rappelez-nous, ça joue jusqu'à quand ?
Ça joue jusqu'au 16 février. Au théâtre de la Bastille, et après on est en tournée au théâtre Sorano à Toulouse, au théâtre de Brive, plus tard au théâtre de Nîmes, je vais en oublier évidemment, en tout cas vous pouvez, il y a un site Facebook, La Grande Mêlée, c'est le nom de la compagnie, vous pouvez retrouver les dates de tournée.
Alors en tout cas, c'est au théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette, entre Bastille et Voltaire, quand on pense aux stations de métro. Voilà, jusqu'au 16 février à 20h, relâche les dimanches. Heureusement qu'il y a relâche le dimanche, sinon tu n'aurais pas pu venir.
C'est ça, ouais. Absolument, ou je serais venu en talon.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Pour cette tempête, et je vous rappelle que notre première partie était consacrée au spectacle Le Chant du Père de Hatice Özer, avec son père Yavuz Özer, entre théâtre et musique et chant au théâtre de la Tempête du 14 au 19 février. Voilà, c'était la belle tempête d'aujourd'hui, et merci et bon dimanche et à la prochaine.
Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant.